Bien, mes chers collègues, je vais vous inviter à, à prendre place. Tout le monde a pris place, donc ça va. Nous avons un conseil municipal un peu plus court en termes d'ordre du jour, mais néanmoins extrêmement important, puisque il nous faut aujourd'hui arrêter le plan local d'urbanisme et dresser le bilan de la concertation qui a eu lieu. Donc c'est un rapport important. Je voudrais vous indiquer que j'ai reçu des pouvoirs. Jacques Fromm est représenté ce soir par Abida Sharif. Magali Carbonel est représentée par Catherine Crozat. Damien Gaudier est représenté par Jean-Michel Lorca. Et Sébastien Durançois est représenté par Chantal Clément. Il est possible que d'autres élus nous rejoignent. Le premier rapport, comme d'habitude, porte sur la nomination d'un secrétaire de séance. Je vous invite à désigner un secrétaire de séance. Et l'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Ce soir, c'est Youri Philippe, le Benjamin de notre Assemblée. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il sera secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 2 concernant la commission d'attribution de la bourse Réguron-Garrigue. Il s'agit du remplacement d'un membre, puisque la démission d'Annie Loyaux libère une place. Il nous faut donc conserver la représentativité antérieure. Et je vous propose, au nom de la majorité, la candidature de Catherine Crozat. Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats. Donc, sa candidature est acceptée. Pas d'opposition, pas d'abstention. Nous la félicitons. Nous en arrivons donc au point le plus important du Conseil. Je vais tout de suite passer la parole à Laurence Guédoum. Je voudrais simplement rappeler quelques éléments de contexte. Notre PLU actuel date de 2006, ce qui n'en fait pas un PLU très ancien, mais nous avons souhaité entrer dans une révision à compter de 2013 de ce PLU pour plusieurs raisons. D'abord parce que la loi Grenelle était intervenue à peu près au moment où notre PLU était à l'époque venait d'être adopté. Il faut donc qu'on puisse y intégrer un certain nombre d'éléments liés à cette loi Grenelle 2 notamment. Et il y avait également nécessité d'inclure dans la ville de nouveaux secteurs déjà inclus dans son enveloppe urbaine, mais qui n'avaient pas forcément la possibilité d'être aménagée comme nous le souhaitions dans le cadre de du plus précédent. Je pense notamment aux orientations d'aménagement et de programmation, qui ont les fameuses OAP qui avaient été définies. Vous vous souvenez de cette visite sur place que nous avions fait dans différents quartiers de la ville, des réflexions que nous avons menées à l'échelle du conseil municipal sur le devenir du secteur Côte-le-Gris, des Malbouches, du Jard, du Platé, de la Coulée verte du Cubry, des Forges, le fond des quatre maisons, ou encore le secteur Porte Sud, qui étaient des secteurs appelés à évoluer. Enfin, je voudrais insister également sur la nécessité faire évoluer notre système de protection du patrimoine. Nous avions autrefois une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la fameuse ZPPEUP qui nous a accompagnés pendant un certain nombre d'années. Les textes ont changé ensuite pour parler d'AVAP, d'aire de valorisation de l'architecture du patrimoine, et entre-temps est intervenue une loi qui rebaptise ces dispositifs sites patrimoniaux remarquables, sites patrimonial remarquables au singulier, pour conforter la préservation du patrimoine qui, comme vous le savez, a une importance particulière dans notre ville. Donc, je vais, si vous le voulez bien, je ne sais pas si tu as préparé quelque chose, Anne-Marie, ou est-ce qu'on passe directement la parole à Laurence Guédoum? Voilà, Laurence va nous présenter en quelques mots les grandes lignes de la révision, reprendre un peu l'historique depuis 2013, puisque je rappelle que c'est en 2013 que nous avons lancé la refonte du PLU et que c'est en 2015 que nous avons eu un débat en conseil sur les orientations d'aménagement et de développement durable qui vont vous être rappelées tout de suite. Laurence, je vous laisse la parole.
Merci. Donc, pour rappel, le PLU, effectivement, rassemble plusieurs étapes. Donc, la procédure ayant débuté par un diagnostic préalable qui a permis de déterminer les principaux enjeux de la procédure, suivi par le projet d'aménagement et de développement durable, donc, qui a été effectivement débattu en 2015. une traduction réglementaire qui a donné lieu à des OAP et au règlement et zonage. Et enfin, nous arrivons aujourd'hui à la procédure administrative pour formaliser le document final et qui sera également suivi du bilan de la concertation. Donc, la première étape était donc a consisté donc à faire un diagnostic avec l'état initial de l'environnement, donc un état des lieux du territoire qui a permis de définir les principaux atouts et faiblesses du territoire sur différents volets économiques, sociaux, environnementaux, urbains et paysagers, mais également de faire par la suite l'évaluation environnementale, c'est-à-dire l'étude des incidences de la mise en œuvre du PLU sur le territoire et notamment sur la zone Natura 2000 qui se situe dans la forêt d'Épernay. Donc, le PADD a été étudié sur cinq volets principaux, donc notamment le patrimoine, la population et l'habitat, le développement économique, les transports et déplacements, et ensuite, et bien sûr, tout le volet environnemental. Donc, les principales orientations ont donné lieu à un document stratégique qui donne la ligne conductrice de l'ensemble du PLU. Donc, c'est en fait la colonne vertébrale du document sur lequel s'appuient tous les documents réglementaires par la suite. Donc, notamment les OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation, qui sont des zooms sur des secteurs donc bien déterminés, comme l'a rappelé M. le maire, avec des enjeux bien précis sur des zones futures à urbaniser ou à requalifier. Donc, pour rappel, il y a 9 secteurs à enjeu, dont 7 principaux qui concernent de la requalification, notamment Berge de Marne, le plus important, mais également deux secteurs d'extension qui sont le Platet, donc une opération qui a déjà débuté depuis quelques temps maintenant, et Côte-le-Gris sur le nord, la partie nord de la commune. Les documents d'aspect réglementaire qui servent ensuite à l'instruction des autorisations d'urbanisme, donc le zonage et le règlement. Donc la partie du document qui est plus connue par les pétitionnaires. Donc, la nouveauté du PLU et de son zonage, c'est d'intégrer les nouveaux périmètres qui se superposent, donc, notamment la mise à jour du PPRI, donc, qui a évolué avec une nouvelle carte d'aléas, d'intégrer le SPR à venir, qui est la nouvelle version de la ZPPIP, et puis de mettre à jour donc, toutes les nouvelles constructions et les différents secteurs qui ont été déterminés sur les OAP. Donc, sur la partie zonage, on a les différents types de secteurs. Donc la zone A, agricole, et la zone N, naturelle, qui comprennent différents sous-secteurs. Donc la zone agricole qui représente principalement le vignoble protégé, et la zone N et ses sous-secteurs, donc qui concernent notamment la zone naturelle équipée qui comprend les équipements communaux, la zone naturelle I qui concerne la zone inondable avec toute la partie NJ, des jardins familiaux, et la zone NZH qui est la nouveauté du plus Grenelle qui recense les différents secteurs à dominante humide, donc principalement la zone Natura 2000 et les autres réservoirs de biodiversité. Ce à quoi se superpose une trame spécifique qui a été adoptée dans le nouveau PLU, donc, qui concerne la protection des éléments paysagers remarquables, notamment les aliments plantés, les massifs et parcs boisés importants, et aussi une protection spécifique sur les cœurs d'îlots qui existaient déjà dans le précédent PLU et qui a été réactualisée. La zone urbaine, donc, qui concerne toutes les zones qui sont construites actuellement, donc la zone du centre ancien, zone UA, la zone de la première périphérie, zone UC. Donc à chaque secteur correspond des règles spécifiques qui sont plus ou moins strictes en fonction de la typologie des constructions et en fonction également de l'apport qui a été fait par rapport au SPR. Donc la zone UD qui concerne les maisons plus individuelles comme on les trouve par exemple à Belnou, la zone UE, avec les équipements publics. La zone UI, les zones la dominante industrielle et économique. Et la zone UK, qui concerne plus des immeubles collectifs, comme par exemple Bernon, Vignes Blanches. Un des nouveaux aspects également du nouveau plus à la partie réglementaire qui a adopté le format proposé par la loi Allure, avec de nouvelles dispositions, une présentation différente et une intégration des spécificités liées au Grenelle. Donc notamment des préconisations sur la mixité fonctionnelle et sociale, ou sur la partie environnementale où les dispositions sont plus poussées. Donc une des autres formalités de ce conseil municipal consiste également à faire le bilan de la concertation. Pour rappel, la concertation a démarré dès le début de la procédure avec une première exposition qui a déjà un registre qui a été ouvert au public. Dès l'ouverture de la procédure. Une première exposition qui a eu lieu en juillet 2014. Une lettre d'information du PLU qui a été distribuée à l'ensemble de la population en 2014 également. Une seconde qui a été distribuée en mars 2016. Des articles qui ont relayé la procédure dans la presse, donc à différents moments, aux différents stades. Des relais aussi également dans la presse internet et réseaux sociaux. On a également organisé 3 réunions publiques en juillet 2014, mars 2016 et décembre 2017. Pour finir aujourd'hui avec ce qu'on appelle un arrêt de projet, qui va figer le projet de PLU tel qu'il est arrêté aujourd'hui et entamer les différentes consultations des personnes publiques associées. Donc c'est en fait les différents organismes d'État et régions et chambres consulaires qui sont consultées et qui ont 3 mois pour donner leur avis. Ensuite, on organisera une réunion publique, une enquête publique. Donc, avec la désignation d'un commissaire enquêteur qui va veiller à l'enquête publique et donner son rapport dans la suite. Donc, tout cela pour dire que dans environ 6 mois, on aura une approbation de PLU définitive. Avec des règles qui vont définitivement s'appliquer sur le territoire. Voilà.
Merci Laurent. Travail auquel vous avez contribué les uns les autres, puisqu'on a eu, et dans cette salle, et sur le terrain ou à la Maison de la vie associative, plusieurs réunions sur le sujet, avec un auditoire plus ou moins important selon les réunions. On a eu également toute une série de réflexions, de remarques qui nous ont été adressées. Et il nous revient aujourd'hui, comme le disait Laurence à l'instant, d'arrêter ce projet avant la consultation des personnes publiques associées. C'est une phase qui va durer à peu près 3 mois, trois mois maximum, et qui nous permettra ensuite de soumettre ce projet de plan local d'urbanisme à l'enquête publique, comme le prévoit la procédure, pour s'acheminer très certainement au printemps prochain vers l'approbation du PLU. Alors j'imagine que cela suscite des questions. Je suis à votre disposition avec Anne-Marie Legras pour y répondre. Je ne sais pas qui souhaite commencer dans ce débat. Oui, monsieur Angers, allez-y.
Oui, je vais dire quelques mots quand même. Tout d'abord... Effectivement, moi aussi, je souhaite saluer le travail des services pour la mise en place de la concertation, tout le travail autour du diagnostic, de l'émergence du diagnostic, le travail autour du PADD, l'émergence de quelques OAP, et puis, en fait, effectivement, toute la compilation... Administrative et réglementaire. Donc, moi aussi, je m'associe à l'hommage que vous avez rendu au personnel sur cet aspect. Néanmoins, ici, on n'est pas là pour voter un document sur sa qualité administrative et réglementaire. On est là pour voter un document dans son orientation politique. Moi, ça m'importe effectivement de savoir au travers des différentes strates et couches de documents qui sont empilés dans ce plan local d'urbanisme, comment on va essayer de construire notre ville dans les, pour les 10 ans qui viennent, puisque bon, on évoquait le plus précédent, 2006-2018, donc là on est parti quand même pour une dizaine d'années. Et moi, c'est ce que je fais globalement comme reproche à ce plus qui nous est aujourd'hui présenté, c'est-à-dire qu'on élabore un plus avec nos yeux d'aujourd'hui, avec nos envies d'aujourd'hui, pour essayer de deviner quelle devra être notre, notre société et notre ville, en l'occurrence, dans 10 ans. Il me semble que la méthode fait que là, on est un peu à côté de la plaque par rapport à l'accélération d'un certain nombre de phénomènes. Le rapport du GIEC est sorti il y a quelques semaines. Il fait état d'une croissance encore plus forte du réchauffement climatique que ce que l'on pouvait attendre il y a quelques années. Et donc, je pense que les outils d'urbanisme, les éléments d'urbanisme doivent faire en sorte que l'on puisse, dans un certain nombre de domaines, anticiper, peut-être aller encore plus loin. Et si on reste vraiment dans un cadre qui est trop justement encadré par des dispositifs, trop contraint par des dispositifs réglementaires et des méthodes anciennes d'avancer dans ce domaine-là, moi je trouve qu'on ne prend pas forcément de la bonne manière le sujet. Moi, dans le rapport de présentation, j'ai relevé quand même quelques, au gré de ma lecture qui a été rapide et un peu en diagonale, parce qu'on n'avale pas 150 pages comme ça en voulant réagir sur tout, j'ai noté quand même quelques éléments intéressants du diagnostic. Le premier, c'est que notre territoire est un territoire exclu des grands flux de communication. Ça doit être dans les 10 premières pages du rapport. Donc il est exclu des grands flux, il le sera encore plus exclu demain. Moi, je raisonne en me disant que de toute manière, la meilleure façon de lutter contre le réchauffement climatique, c'est quand même de relocaliser une certaine activité, parce que les gaz à effet de serre sont quand même émis pour bonne partie par le transport, par un logement insuffisant en matière d'isolation, etc. Donc reconcentrons-nous sur le territoire pour recréer de l'activité et faire en sorte que les gens puissent retrouver des dynamiques de territoire. Et ça, moi, je retrouve pas ce sens-là dans le plus d'une manière générale. Et d'ailleurs, ça avait été un peu orienté dans le PADD, notamment dans le chapitre pôle de développement, puisqu'on disait de toute manière, à Épernay, s'il doit y avoir un développement économique, ça peut être que dans le tertiaire, ça peut être que dans le tourisme, ça peut être que dans le commerce. Quid, je dirais, du primaire et du secondaire là-dedans. Aujourd'hui, on en a fait carrément une mise à l'écart depuis le PADD. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, les évaluations qui nous sont aujourd'hui fournies par le GIEC disent que il faut quand même qu'on se remette en cause et qu'on essaye d'imaginer une autre société, avec justement ce que j'avançais au préalable, de relocaliser une économie sur le territoire. Et au travers du document tel qu'il nous est aujourd'hui présenté, moi je m'y retrouve pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de vérités, un certain nombre de points dans le plus sur lequel nous sommes d'accord, même des zones, des EOAP sur lesquelles on n'a absolument évidemment rien à dire, parce que le sujet a été fouillé, on a essayé de trouver des ambitions locales pour répondre à un certain nombre de problèmes. Ponctuellement, il y a des choses qui me vont bien, mais le document, moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. C'est un document qui est dans un administratif et dans un réglementaire très très linéaire, comme si on devait nous porter successivement de plus en plus pour nous mener dans une dizaine, une vingtaine d'années sans difficulté. Non, je pense qu'aujourd'hui les enjeux sont quand même d'un autre niveau, et c'est dommage de ne pas avoir des clés d'entrée pour prendre le problème différemment. Le problème, il faudra bien qu'on le prenne différemment sur un certain nombre d'aspects. Il y a un certain nombre de vérités qui sont quand même énoncées dans vos documents sur le vieillissement de la population. Imaginez que dans quelques années, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs au conseil municipal, mais on sera plus de 30% qui auront plus de 60 ans. Dans cette ville, 30% de plus de 60 ans. Comment est-ce que on conduit une économie également avec ces évolutions-là? Il y a également des questions sur lesquelles on n'a pas trop réponse. C'est quid des 1500 logements qui sont inoccupés dans la ville? Comment on se ressaisit sur ce point? Parce que ça me semble là quand même l'une des clés du problème. Pour ménager de la surface, justement, pour imaginer un développement économique à côté. Quid également, on raisonne évidemment très intramuros et perné. Il y a des questions qui sont posées, notamment qui ont été posées lors du diagnostic, qui sont également posées dans l'introduction du document de présentation. Comment on raisonne Vignes et Agglo? Sachant qu'aujourd'hui, il y a une partie du public de la ville qui part vers la première, la deuxième couronne pour aller y habiter. La réponse, elle est quand même là, à mon avis, dans l'imagination de transport qui puisse faire en sorte de véhiculer à moindre coût et pourquoi pas gratuitement un certain public dans un contexte quand même très calibré au niveau de nos actions par rapport au développement durable et à la lutte que l'on envisage de mener contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, moi, je ne retrouve pas mon compte. Il y a des sujets qui m'intéressent particulièrement. Ça rejoint le domaine de la production, l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine pourra être dans 10 ans peut-être un élément qui viendra permettre de relocaliser une certaine production. Quid, je dirais, de ces orientations un petit peu avant-gardistes au travers de vos documents? Moi, je ne m'y retrouve pas. On a un document de 2006 qui a été très largement toiletté au gré d'un certain nombre d'évolutions réglementaires qui ont eu lieu fort heureusement depuis, à tous les niveaux, au niveau État, au niveau régional. On a vu les schémas qui ont été conduits depuis quelques années. Il faut effectivement tout remettre ça au goût du jour, mais où est cette dimension volontariste et avant-gardiste? Moi, je ne m'y retrouve pas dans ce souhait de prendre à bras le corps certains sujets, certaines orientations pour les décennies qui viennent.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur Lefebvre.
Donc, moi, je n'ai pas fait une analyse très loin parce que nos connaissances, on ne les a pas. On vit un peu le jour, on peut se projeter dans un cadre, mais c'est difficile de se projeter sur 10, 15 ans. Alors, donc, j'ai suivi le texte qui nous a été donné. Donc, le premier point, je considère, à mon avis, que le diagnostic est assez bon. Il correspond à un constat que je fais depuis de nombreuses années. C'est-à-dire la démographie importante, la baisse de démographie, le taux de chômage important. Hein. Souvent, vous parlez d'un taux moins important de chômage parce qu'on considère la région d'Épernay. Vous n'avez pas, vous nous dites, de données sur Épernay intramuros. Là, il est bien noté, ici, page 34, la part de la population active ayant un emploi est plus faible sur Épernay que sur l'agglo et le département. Troisièmement, le nombre important de logements vacants, les 1500 logements. Donc, que faire? Ça, c'est vrai qu'il faudrait y réfléchir et prendre des décisions. Il y en a déjà eu de prises, je crois, concernant les taxes locales qui ont été imposées pour les logements vacants en centre-ville et ailleurs. La forte demande d'accession à la propriété, ça, c'est important, c'est une demande de jeunes couples, le départ des jeunes, que faire, créer des activités, mais aussi des emplois, le délaissement des entrées de ville. Ça, c'est dit depuis un certain temps, et je le retrouve bien ici. Donc, quelques détails sont à relever ou à rectifier sur votre document. 20 km de pistes cyclables sécurisées. Alors, je m'interroge sur le terme sécurisé. Voilà, la ligne blanche marquée sur le sol n'est pas pour moi une sécurité. Nous devons réaffirmer davantage la nécessité absolue d'aménager la route départementale 951, Reims-Épernay ou Épernay-Reims. Nous devons établir un plan de déplacement urbain. C'est noté que nous n'en avons pas. Nous devons être plus restrictifs sur la hauteur des nouvelles constructions et ne pas être vagues. C'est noté, pas plus d'un niveau de différence avec l'une ou l'autre des constructions principales voisines. Une tolérance peut être accordée pour une amélioration de performance énergétique. On sait que maintenant, question énergie, on n'a pas besoin de faire un étage supplémentaire. On a des matériaux isolants et bien davantage qu'il y a quelques années. Je n'ai pas vu dans le document, mais je l'ai peut-être, Jonathan va peut-être me le dire, d'emplacement réservé à un parking de covoiturage. Je ne l'ai pas vu, bon, il y est peut-être. Va-t-il exister ? Enfin, à la page 65, c'est une erreur de frappe, le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de la ville, mais tout le monde l'a vu, se terminera en 2019. Donc ça, c'est sur le diagnostic. Trois paragraphes, à mon sens, ne sont pas assez développés concernant la protection de l'environnement. Le TMD, le transport de matières dangereuses, vous savez que j'en ai fait mon cheval de bataille il y a quelques années, ça n'a pas fonctionné. Premièrement, par route, il n'y a pas de déviation réelle prévue. Une étude serait-elle faite dans le cadre du projet Berge de Marne ? Est-ce qu'on peut passer sous les ponts, etc., utiliser donc le long de la ligne SNCF, mais je crois que quelqu'un a dit récemment que c'était impossible que la SNCF mettait son veto. Le TMD par voie ferrée, là j'en ai pas du tout entendu parler, il y a nécessité d'une zone de protection et surtout une publicité vis-à-vis des gens en place, parce que sur la ligne de chemin de fer, il y a aussi un transport de matières dangereuses, mais ça, on n'en parle jamais, et c'est très important. On le sait très bien, et j'avais fait des démarches en 100 ans auprès des institutions. Deuxièmement, les risques technologiques ne sont pas assez développés. Leur périmètre de protection doit être mis en valeur, et une information du public doit être faite. Les sites, je les rappelle, la SGV à l'aide Cumière, 100 mètres de périmètre, Smurfy Kappa de 0 à 59, je pense qu'il y a une découpe qui m'échappe, la SOGCE à 200 mètres, et puis les sites et sols pollués, les déposants SOGCE, les établissements Rohrbacher, la Société métallurgique de Pernay et la SNCF. Donc, que comptez-vous faire, impulser pour dépolluer ces sites, mis à part ceux de la SNCF? Voilà. Et puis d'autre part, pour terminer sur ce chapitre, je l'avais déjà évoqué, certaines cuveries présentent-elles de possibles dangers pour la population ? Quel est le plan de protection les concernant ? Troisième et dernier point, la protection de la population et notamment des élèves de certaines écoles contre les traitements, déversements de pesticides dans les vignes toutes proches. Il y a notamment une cour d'école, et puis il y avait un collège aussi, proche des vignes. Quelle est la réglementation ? Vous la connaissez certainement bien. Et que comptez-vous faire pour protéger les élèves ? Concernant le troisième grand point, le bilan et les perspectives, naturellement, je soutiens tout ce qui est noté à ce propos sur le maintien et la stabilité de la population. Bon, là, je fais une petite parenthèse vis-à-vis du SCOT. Je croyais que le SCOT... Oui, non, oui. Le SCOT n'a-t-il pas prévu une augmentation de la population épernaise ? Parce que là, c'est marqué stabilité. Donc, voilà. La mixité résidentielle, je suis naturellement pour. Toutes les mesures favorisant l'accueil des familles, le fait de retenir les jeunes, l'offre d'habitat qui répond aux attentes des jeunes ménages, le maintien de la diversité économique et même, j'y ajouterais, l'installation de nouvelles industries, parce que vous maintenez ce qu'il y a, mais vous ne vous projetez pas avec de nouvelles installations industrielles, la préservation du commerce de proximité. Naturellement, il faut défendre, combattre et ne plus être favorable, M. Maréchal, à l'extension commerciale de Pierry. Hein, voilà, vous savez à quoi je fais allusion. Favoriser les modes de déplacement doux et prévoir une piste cyclable dans chaque rue rénovée. Quatrième point sur la justification des choix retenus, notamment valoriser les axes de circulation, améliorer la circulation intramuros, développer les liaisons interquartiers, orienter les flux des poids lourds. Alors là, j'en viens à la page 74 sur la nouvelle solution que vous envisagez à travers l'OAP des Berges de Marne. Et cinquième et dernier point, sur le quartier des Berges de Marne, notamment, page 109, il est noté que plus de 20 hectares de superficie, près de 15 hectares de friches sont à aménager. Au départ, vous nous avez parlé de 15 hectares à aménager, ensuite, ça a été 13 hectares. Lors de la visite des ateliers, donc un samedi, il y a peut-être une quinzaine de jours, on nous a dit 12 hectares, et puis enfin, mercredi dernier, lors de votre discours devant les nouveaux arrivants d'Épernay, vous avez dit, noté 11 hectares. Alors j'espère qu'on va stopper là, sinon il ne va plus rien rester. Hein. Donc, en conclusion de tout cela, les contraintes seront respectées, c'est une obligation. En revanche, les objectifs à atteindre seront plus difficiles, c'est autre chose. La mise en pratique et la réalisation, c'est plus difficile. Et j'espère que ces objectifs ne constitueront pas un catalogue de bonnes intentions, mais qu'ils seront suivis des faits. Merci de votre attention.
Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Pas d'autres demandes. Je vais donc répondre avec un certain nombre des adjoints présents aux questions qui ont été évoquées. S'agissant des remarques formulées par M. Angers, je me retrouve assez bien dans les préoccupations qui sont les vôtres globalement, puisque évidemment le vieillissement de la population, le développement économique d'Épernay sont des sujets importants, le développement durable, l'agriculture urbaine, mais tous n'ont pas vocation forcément à figurer dans le plus. Je prends l'exemple du développement économique fondé sur le secteur industriel. Je continue d'y croire ici, et Épernay est l'une des villes les plus industrielles de notre région, tout simplement parce qu'une grande partie du négoce champagne est classée en secteur industriel par l'INSEE. Mais objectivement parlant, vous savez comme moi que pour faire du développement industriel, il faut de l'espace. Or, à Épernay, on n'a plus d'espace aujourd'hui, ou très peu d'espace. Je rappelle quand même, je vous redonne quand même ces chiffres qui sont importants. Il faut que je les retrouve parce que j'avais noté ça. Sur l'occupation de l'espace de la ville, 46% du territoire est occupé par la forêt et les milieux semi-naturels, essentiellement la forêt, plus de 1000 hectares. Le territoire agricole et viticole représente 555 hectares, soit 24% du territoire. Les surfaces en eau représentent 1% du territoire. Autant dire qu'il reste 29% du territoire qui sont quasiment urbanisés à 100%. Ce qui veut dire que les seules possibilités de développement que nous avons, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas ambitionner en termes de développement démographique une croissance spectaculaire, c'est de reconstruire la ville sur elle-même, ce qui est incomparablement plus compliqué que d'agrandir la ville au détriment des espaces naturels ou des espaces agricoles, comme cela se passe partout ailleurs. Donc on a cette spécificité. Et ça vaut notamment pour le développement industriel. S'il n'est pas mentionné dans le plus le développement industriel, c'est tout simplement parce que, non pas parce qu'on y a renoncé, mais c'est parce qu'il s'il doit se faire, il se fera sur les communes environnantes, comme d'ailleurs il s'est fait depuis des années. Je rappelle que la zone de Mardeuil est une zone industrielle qui touche Épernay, mais qui est en dehors des limites d'Épernay, qu'on travaille d'ailleurs en ce moment avec les propriétaires des parcelles en friche. Il y a un peu plus de 4 hectares de friches disponibles sur cette zone de Mardeuil. Si le développement industriel veut se faire, c'est plutôt sur une zone comme celle-ci, ou c'est plutôt comme une zone comme Wari, qui a vu depuis 25 ou 30 ans l'industrie s'y développer parce qu'elle est idéalement placée, parce qu'elle est dans la plaine. Donc déjà, il y a plus de facilité et d'accessibilité à Wari qu'il peut y en avoir au cœur d'Épernay, où la présence des camions est un problème, où les flux logistiques se heurtent à un certain nombre de difficultés, et que parier sur un nouveau développement industriel d'Épernay me semble illusoire. Ce qui ne veut pas dire que l'agglomération des Pyrénées ne doit pas, elle, à son échelle, envisager un développement industriel. Je pense très sincèrement que, compte tenu des contraintes de la ville, compte tenu de son manque d'espace, et encore une fois, je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas une ville dans le Grand Est, et j'en connais un certain nombre aujourd'hui, il n'y a pas une ville qui a autant de contraintes foncières que la nôtre, tout simplement parce que la zone d'appellation est là, et tant mieux, parce que la forêt est présente, parce que la plaine inondable est autour de nous également, enfin en partie autour de nous, ce qui fait que l'addition de ces trois contraintes naturelles fortes contraint terriblement le développement de notre secteur économique. Pour autant, on n'y renonce pas. Vous aurez l'occasion d'ailleurs dès demain de voir qu'au salon Vitivini, on est présent et que la communauté d'agglomération est présente sur la thématique du développement industriel, mais là où c'est autorisé, là où c'est facile, là où c'est envisageable, et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur les communes qui nous entourent que sur Épernay. C'est moins gênant aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les revenus fiscaux professionnels sont mutualisés à l'échelle de la communauté d'agglomération et que, quelque part, on n'est pas pénalisé de ce point de vue. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, évidemment, notre attitude aurait été différente, mais nos marges de manœuvre n'étaient pas les mêmes. Donc, sur le développement économique et sur le secteur industriel, effectivement, vous ne trouverez pas de traces de nouvelles zones industrielles à Épernay dans ce PLU, pour la simple et bonne raison que toutes les zones sont occupées quasiment à 100%. Il n'est pas impossible que, à l'échelle de 1 ou 2 hectares, on ait des extensions qui soient possibles, notamment sur le secteur Berge de Marne, puisqu'on est en jonction immédiate avec la zone industrielle nord. Donc il n'est pas impossible que la frontière, la limite, bouge quelque peu. Ça me donne d'ailleurs l'occasion de répondre tout de suite à Marc Lefebvre sur les surfaces de la zone Berge de Marne. Si cette surface fluctue, c'est parce que la SNCF fluctue dans ses positions. C'est-à-dire que au départ, effectivement, on était aux alentours de 13 hectares et quelques. Alors, incluant dans ces 13 hectares et quelques des terrains qui se situent de part et d'autre de la rue de Reims. Il ne faut pas oublier non plus la partie des terrains SNCF qui se situe à l'est de la rue de Reims, en allant vers le secteur où se trouve notamment Smurfit-Socar. Il y a aussi des terrains SNCF de ce côté-là, mais ils sont complètement détachés des autres, puisque la rue de Reims fait une coupure. Donc si on prend la globalité des terrains, on doit être aux alentours de 13 hectares et demi, 14 hectares. Si on restreint la réflexion à Berge de Marne, évidemment, on retranche de ces 13 hectares et demi une partie des terrains que je viens de citer. Et la SNCF nous a par exemple annoncé il y a quelques mois qu'elle envisageait de conserver sur une partie des terrains de Berge de Marne une zone située à l'ouest du futur quartier Berge de Marne, dans l'hypothèse où il serait envisageable de construire une extension du technicentre permettant la maintenance des trains. Donc, il y a effectivement, le terrain a été quelque peu rogné par rapport au projet initial, mais c'est la SNCF qui nous a mis un petit peu devant le fait accompli en nous disant on préfère se laisser un petit peu de marge dans l'hypothèse où les activités industrielles de maintenance de la SNCF viendraient à se développer. On n'a pas plus d'informations à ce jour. J'ai interrogé les responsables de la région sur ce projet qu'ils ne connaissent pas. Alors, est-ce que c'est une précaution foncière de la SNCF ? J'en sais rien, mais il y a probablement un hectare et demi que la SNCF risque de conserver pour organiser des maintenances futures ou en tout cas des activités industrielles autour de la maintenance. S'agissant du vieillissement de la population, ben, on est en plein dans le sujet quand on évoque l'habitat et quand on évoque notamment le projet Cœur de Ville que j'ai signé avec le préfet il y a quelques jours dans cette salle, puisque le projet Cœur de Ville donc qui consiste à mobiliser des moyens de l'État, de la région, de la Caisse des dépôts, du département et d'un ensemble d'autres partenaires sur le centre-ville, a clairement identifié à Épernay deux thématiques, le commerce et surtout le commerce avec le développement vers Berge de Marne et l'habitat, qui est une vraie difficulté, notamment s'agissant notamment de la résorption de la vacance en centre-ville. On sait très bien qu'on a des milliers de mètres carrés de logements inoccupés en centre-ville aujourd'hui. Et pourquoi sont-ils inoccupés ? Parce que le développement commercial dans les années 80, 90, et même peut-être déjà 70, s'est fait souvent au détriment des logements, puisque à cette époque, la croissance économique était évidemment plus importante qu'aujourd'hui, et le développement commercial poussait les propriétaires de murs commerciaux à accroître la surface de vitrine, la surface commerciale, au détriment parfois des escaliers qui permettaient de monter dans les étages. Donc aujourd'hui, on a des immeubles complets à Épernay qui n'ont plus d'accès séparé Et je pense qu'il va falloir, ça va être une opération lourde, très certainement envisager une opération immobilière sur le long cours qui visera à racheter des immeubles complets, à transformer ces immeubles pour redonner vie aux étages et transformer les étages en remettant dans à différents niveaux des logements correctement équipés, c'est-à-dire parce que les bâtiments d'aujourd'hui n'étant pas été occupés pendant 20 ou 30 ans, évidemment sont vétustes pour la plupart d'entre eux, redonner du confort aux étages, recéder la partie rez-de-chaussée aux commerçants et ainsi remettre sur le marché des centaines, voire des milliers de mètres carrés de logements, parce que ce serait aberrant de construire à nouveau du logement. D'abord, en centre-ville, il n'y a pas d'espace pour en construire, alors qu'on a là des dizaines et des dizaines d'appartements qui sont qui sont à la disposition d'un certain nombre de personnes, je pense notamment à des personnes âgées, mais pas seulement, pour peu qu'on puisse y accéder convenablement, c'est-à-dire ou avec un ascenseur, s'il s'agit aujourd'hui de personnes à mobilité réduite, ou avec un escalier desservant ces étages. Ça va être une opération assez complexe, mais d'autres villes s'y sont engagées. Pas très loin de chez nous, la ville de Châlons nous a montré le travail qui a été fait avec la Caisse des dépôts sur le sujet. Et effectivement, c'est des opérations d'acquisition, restructuration, revente derrière, pour faire en sorte de réanimer ces îlots du centre-ville qui, en apparence, sont vivants, sauf qu'à l'intérieur de ces logements, il n'y a personne, pour la simple et bonne raison que ces logements ne sont plus accessibles. Vous avez évoqué ensuite tout ce qui touche au développement durable à travers notamment l'exemple de l'agriculture urbaine. Je vous suis totalement sur le sujet. Alors, si ce n'est que l'agriculture urbaine, on ne peut pas la concevoir uniquement à l'échelle de la ville-centre, il faut la concevoir à l'échelle, là encore, de l'agglomération. Je suis pour, et Claude Maréchal le sait, l'existence d'une ceinture maraîchère autour d'Épernay, parce que c'est le moyen de redévelopper des activités et des filières courtes qui, demain, correspondront à l'attente croissante des habitants. Je rappelle que des projets comme ceux de la Coulée Verte, du Cubri, comme l'OAP des Forges également, entrent complètement dans cette logique de préserver des zones naturelles, de les rendre disponibles à la promenade, voire à des activités de maraîchage, c'est tout à fait envisageable, que nous avons entrepris de racheter un certain nombre de terrains en friche de la zone située du côté de la plaine inondable de la plaine d'Aï, pour justement recréer des offres en termes de jardins pour les personnes qui souhaiteraient s'adonner à ce loisir, mais pourquoi pas développer des exploitations d'agriculture urbaine puisque la possibilité existe. Je rappelle également que nous avons tout récemment dans le domaine de la rénovation thermique du bâtiment inauguré la maison de l'habitat durable à Épernay, qui témoigne là aussi d'une volonté politique très forte de nous impliquer dans ce secteur-là. S'agissant, je crois que je ne sais plus lequel d'entre vous a évoqué la question du covoiturage, mais là aussi des possibilités existent du côté du stade, qui est un endroit idéal, puisque ce sont des emplacements qui ne sont pas utilisés la semaine, et qui sont donc des places de stationnement qu'on va flécher, organiser pour les activités de covoiturage en semaine, et notamment pour toutes les personnes qui vont travailler à Reims, qui pourraient tout à fait s'arrêter à cet endroit-là, prendre une autre voiture, monter dans une autre voiture, et ensuite filer vers Reims, et réciproquement le soir. Donc il y a toute une série... Oui, il n'a pas forcément besoin d'être fléché zone de covoiturage, puisqu'on a des espaces extrêmement importants qui, de fait, aujourd'hui, servent de zone de covoiturage. Alors, très certainement, il faudra les mentionner, les signaler correctement, mais de là à geler cet espace en zone de covoiturage dans le plus, ça n'a pas de sens, puisque pour le coup, on ne pourrait plus les utiliser autrement, notamment pour les jours de match au stade Paul Chandon. Donc, ce sont des usages mixtes. Faire en sorte que le samedi et le dimanche, puisqu'il y a des matchs de foot, de rugby, on puisse utiliser ces espaces comme aire de stationnement pour les activités sportives à proximité, peut-être aussi le mercredi après-midi, parce qu'on a un certain nombre de jeunes qui fréquentent ces secteurs-là. En revanche, en semaine, et d'ailleurs certains le font couramment, viennent déposer leur voiture à cet endroit-là, montent dans une autre voiture et partent à Reims, et le soir reviennent rechercher leur voiture. Donc ces usages-là sont bien pensés. On n'a pas pour autant à les faire figurer en tant que tels dans le plus, ce qui aurait l'inconvénient de figer définitivement des zones, alors même que ces zones aujourd'hui sont des zones d'usage multiple qui s'organisent très bien, si ce n'est qu'effectivement, ils ne sont pas forcément suffisamment référencés à la fois sur les GPS et en même temps pour les utilisateurs occasionnels. Alors, parmi les questions qui ont été évoquées, il y avait... la question des pratiques viticoles qui seraient dangereuses aux abords des écoles. On n'a pas identifié d'école à Épernay qui soit sous cette menace pour la simple et bonne raison que déjà les pratiques viticoles ont considérablement évolué ces dernières années. Vous souvenez qu'il y a 7-8 ans, on survolait encore en hélicoptère les vignes et qu'on utilisait... Comment ? Non, non, plus maintenant. Plus maintenant, les méthodes de...
Je crois qu'on vous a proposé la création d'une haie pour protéger l'école.
Non, mais les techniques de culturales, Monsieur Angers pourrait vous en parler, ont considérablement évolué. Quand on voit aujourd'hui, aller demain au salon Vitivini, le degré de précision des nouveaux engins qui sortent, quand on voit comment la réglementation s'est renforcée, quand on voit comment on a interdit l'usage des hélicoptères qui, effectivement, avant faisaient ça, certes avec une certaine précision, mais une précision à 15 ou 20 mètres près. Aujourd'hui, on est loin de tout ça. Aujourd'hui, les pratiques évoluent constamment, sous l'impact notamment de la réglementation sur le plan de la santé au travail des agents qui travaillent dans les vignes. Et vous pensez bien qu'aujourd'hui, s'il y avait la moindre inquiétude sur l'école Belnoux, ça ferait longtemps que les services de l'éducation nationale se seraient manifestés. Quand on est dans la cour de l'école Belnoux, on est à 35 mètres environ de la première vigne. 35 mètres, c'est pas 3 mètres. Hein, on serait effectivement en bordure des vignes, mais il y a un grand espace vert entre les deux, qui est d'ailleurs utilisé par les habitants du quartier, et les vignes sont à environ 30 à 35 mètres de la cour où jouent les enfants. Donc ce risque, il est extrêmement minime, voire inexistant. Donc il ne faut pas non plus... Mais on satisfait à ces textes. Vous pensez bien que si on ne les satisfaisait pas, ça fait longtemps que le sujet serait intervenu au conseil municipal. Ça ferait longtemps qu'on aurait été mis en demeure par la DREAL de déplacer cette école. Il n'y a jamais eu la moindre inquiétude, je crois, d'avoir jamais reçu le moindre courrier sur cette question des services de l'État. Donc il ne faut pas assimiler ce qui a pu se passer dans le Bordelais sur une école particulière qui, à 1,50 m de son mur, avait des vignes, où effectivement, j'imagine que quand là-bas... quand on mettait de la bouillie bordelaise ou autre chose sur les vignes, il y en avait autant dans la cour que dans la vigne. Il ne faut pas assimiler cette situation tout à fait particulière avec ce qu'on vit à Épernay, où la plupart des écoles sont en hypercentre, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas exposées à d'autres formes de pollution et à la qualité de l'air, comme tous les habitants du centre-ville d'Épernay, mais en tout état de cause, le risque viticole n'existe pas, ou de manière extrêmement réduite, en tout cas jamais au point d'alerter les autorités académiques. Donc sur ces questions-là, je pense qu'il n'y a pas de risque à avoir. Il ne faut surtout pas affoler les populations. Et puis je vais passer la parole à Jonathan parce qu'il pourra vous décrire les travaux qui ont eu lieu aujourd'hui toute la journée. Je passerai ensuite la parole à Claude Maréchal avec l'ADREAL, avec l'ADEME au niveau et la région Grand Est au niveau du Palais des Fêtes où une réunion importante avait lieu. Et vous verrez que contrairement à ce que vous laissez entendre, la ville d'Épernay et son agglomération sont plutôt considérées comme vertueuses dans leur démarche et dans leurs résultats en termes d'environnement que des villes qui laisseraient se développer des activités contraires aux intérêts des habitants sur le plan sanitaire. Jonathan.
Oui, en effet, il y avait une réunion sur le plan climat aujourd'hui avec des collectivités et des élus et des techniciens du Grand Est. Il y a eu deux réunions qui ont été faites dans le Grand Est, une à Tannes en Alsace et l'autre à Épernay aujourd'hui. Donc des élus évidemment de la Champagne-Ardenne, mais de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, d'Alsace sont venus jusqu'à nous. Donc on a pu travailler sur les plans climat, comment monter des plans climat, comment les travailler, comment associer la population, les entreprises, etc. Donc, nous, on est au début de cette démarche. Certains sont beaucoup moins en avance que nous, mais on a pu échanger des bonnes pratiques des uns et des autres sur cette question. Pour parler du PLU, évidemment, tout ne se retrouve pas dans ce document d'urbanisme. Il y a des choses qui sont évidemment prescrites, mais il y a aussi des initiatives qui sont en matière d'environnement ou dans d'autres matières qui n'ont pas vocation à rentrer dans le PLU. Après, sur la matière environnementale, Jean-Paul Angers reconnaissait quelques améliorations, en tout cas des prescriptions intéressantes pour les OAP. Il est vrai aussi qu'on doit contrôler ce que la loi aujourd'hui impose à toute nouvelle construction, c'est le respect de la RT 2012. Et la RT 2012 permet de faire des grandes économies en matière d'énergie dans son logement, de faire des logements assez économes en énergie et peu énergivores. Nos instructeurs de permis de construire le font et il faut que ce soit beaucoup plus fort. Et là, c'est la loi qui l'impose. On n'a pas à le mettre dans le PLU puisque d'emblée, ça s'applique du fait de la loi. Après, on a pris en compte des choses dans ces OAP. Il y en a certaines qui sont plus incitatives que d'autres parce qu'on veut maintenir aussi un équilibre entre l'ambition écologique et les contraintes que peuvent amener ces prescriptions au regard du coût qu'aujourd'hui sont faites pour construire ces maisons. Parce qu'il y a un surcoût quand on isole avec des matériaux naturels. Il y a un surcoût, mais qu'on retrouve évidemment lorsqu'on fait le bilan au bout de 20 ans des économies d'énergie. Mais il faut trouver un équilibre pour ne pas donner trop de prescriptions, mais il faut inciter, et il y a des choses qui sont faites dans le PLU qui sont proposées. Ensuite, l'adaptation au changement climatique, il y a des choses qu'on retrouve dans le PLU. Il y a évidemment ce que la loi impose en matière d'absorption de l'eau à la parcelle pour éviter l'imperméabilisation des sols, mais on a aussi inscrit des choses importantes en matière d'îlots de chaleur urbain. Il faut lutter contre ces îlots de chaleur urbain, notamment grâce à la végétalisation. Et ça, on le retrouve dans le PLU. Alors, ce n'est pas une norme. On ne dit pas on ne va pas implanter 5 arbres par parcelle, etc. Mais ça doit être pris en compte dans nos politiques publiques, mais aussi lorsqu'on aménagera les futurs quartiers ou en tout cas les futures habitations. Il doit y avoir une végétalisation qui soit prise en compte soit par des plantations au sol, soit par une végétalisation des toitures ou des façades. Pour l'agriculture urbaine, Franck l'a dit, il y a des initiatives qui sont en place. On a des choses qui sont dans les cartons qui devraient pouvoir se décanter. On a parlé évidemment de la plaine d'Ailly, mais aussi l'agglo a fait un courrier à destination de tous les maires de l'agglomération. Tu as signé un courrier pour les inciter dans chaque commune à nous mettre à disposition, en tout cas gratuite ou financière, trouver des terrains où on peut cultiver, on peut faire de la culture maraîchère, soit pour alimenter les circuits courts, soit pour alimenter les restaurations scolaires, voire les restaurants. Donc ça, c'était un courrier qui a été envoyé cet été à destination des maires. Certains nous ont répondu, d'autres ne l'ont pas encore fait, mais il y a des choses qui sont mises en place. Ça, on ne va pas le mettre, évidemment, dans le PLU. Après, en matière de pistes cyclables, il y a en effet 20 km de voiries cyclables, pas de pistes cyclables dans Épernay. On l'avait déjà dit, il y a des points faibles en matière de connexion entre les pistes qui peuvent exister. Il faut qu'on améliore cette connexion. Mais on a recruté, la personne va arriver dans quelques jours, une chargée mission mobilité durable qui est expérimentée à la matière et qui va travailler pour l'agglo d'Épernay, celle d'Ailly et celle de Dormans en matière de pistes cyclables. Après, la question qu'on pourrait poser, c'est dans quelle rue vous supprimez le stationnement ou dans quelle rue vous interdisez la circulation. Il n'est pas possible de faire systématiquement à chaque rénovation de rue une piste cyclable. Ça veut dire c'est réglementé, c'est des largeurs de quelques mètres. Ça veut dire qu'on interdit soit aux riverains de se stationner, soit au passage de véhicules. Donc il faut trouver un équilibre, évidemment, entre circulation douce dans Épernay et ces contraintes-là. Ensuite, pour la voie ferrée, l'atelier qui a eu lieu mercredi dernier, les élus et certains habitants ont exprimé le souhait de voir cette circulation des poids lourds rapprochée de la voie ferrée et concentrer la circulation aux abords de la ligne de chemin de fer. Ça, c'est un souhait qui est exprimé par les élus, par les habitants. Maintenant, il nous reste à voir les contraintes que la SNCF va nous imposer. Et ça, on n'est pas maître de cette contrainte, puisqu'il y a il faut desservir les voies ferrées, il faut peut-être étendre l'activité du site. Voilà. Et pour finir, sur les sites pollués, c'est une compétence de l'État, c'est la DREAL qui doit charger de vérifier les sites pollués. Si on avait des alertes en ce sens-là, on l'aurait averti au service de l'État. Mais parfois, les sites pollués sont aujourd'hui répertoriés ainsi, mais c'est au regard de l'histoire du site en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité n'est plus aussi polluante qu'elle l'était il y a 20 ou 30 ans, mais les sols restent toujours en alerte parce qu'ils ont emmagasiné des choses. Donc ça, il faut le regarder. Alors, je ne nie pas qu'il y a sûrement des activités qui sont encore polluantes, évidemment, mais j'imagine que l'État contrôle ces installations qui parfois sont classées, mais en tout cas, c'est l'État qui a cette compétence technique et cette compétence réglementaire pour imposer ces choses-là. Voilà, Franck parlait aussi de la plateforme de rénovation énergétique. Il y a le plan climat qui se met en place. On le veut ambitieux. Il y a des choses intéressantes qui sont déjà proposées. Et évidemment, il faut qu'on aille plus loin en matière d'énergie renouvelable, par exemple, sur le plan climat. Mais j'espère que vous serez tous beaucoup d'idées pour ce plan climat qui va concerner l'agglo sur les 6 ans à venir.
Claude.
Oui, moi, je suis un peu surpris parce que ce PLU est plus ambitieux que vous ne le voyez. En tout cas, il n'est pas d'abord conçu dans un isolat, il est quand même intégré et mis en perspective. Il est quand même cohérent lorsque, au titre du SCOT, en tant que PPA, on répondra, on montrera en quel sens il est conforme aux objectifs à horizon 2035, parce qu'il s'inscrit véritablement dans des axes majeurs que l'on a validés. Je dis il est beaucoup plus ambitieux qu'il n'y paraît, parce que le diagnostic que tu partages, Marc, montre bien qu'on a bien identifié des potentialités. Et ces potentialités ont été mises également en projet. Et je pense, je veux saluer en particulier toute la richesse du travail pour les OAP, hein, qui montre en quel sens on refait une reconstruction et utilisation de l'espace important. Et là, il y a un consensus fort de la part de l'ensemble des membres du territoire du SCOT pour dire que le devenir de notre territoire passe par une densification des pernées et par une mixité accrue de la population. Donc on n'est pas du tout hors sujet, loin de là. Il y a véritablement, nous avons dans le plus, les densités les plus fortes pour montrer justement cette capacité de retravailler sur les dents creuses, d'utiliser au mieux les espaces et dans un esprit vertueux, on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'il y a une démographie qui est problématique, mais elle est problématique dans tout le Grand Est et pas, c'est pas uniquement à Épernay. Par contre, on est dans une perspective d'évolution, de transformation de notre modèle économique. Je pense que vous en êtes conscient, mais il est très sensible, c'est-à-dire on développe bien la partie productive, mais on va très fortement quand même sur une stratégie touristique et le travail sur l'attractivité permettra de gagner aussi en résidentialisation. Donc, à partir de là, il y a un équilibre à la fois démographique et économique assez significatif sur le territoire. D'autre part, on n'est pas isolé dans la mesure où il est clair que Épernay a un rôle majeur dans le travail de l'irrigation territoriale et dans le travail d'une dynamique inter-SCOT. Et on est en cohérence avec ce qui se fait au niveau du STRATET pour essayer de rapprocher ce qu'on a appelé, ce que la région prévoit comme macro-territoire, pour essayer justement d'irriguer ce territoire, de lui donner une masse critique assez significative. Donc, oui, il me semble que c'est quand même beaucoup plus prospectif et positif que vous le dites. Franck a évoqué l'opération cœur de ville qui va permettre justement une densification et une diversification et des réponses. D'autre part, le PLH engagé au niveau de la communauté d'agglo envisage justement cette restructuration, cette diversification de l'offre de services. Donc, moi, il me semble quand même qu'on est dans un territoire où il y a des opportunités assez exceptionnelles qui permettent d'imaginer un développement. Alors, il ne se fera pas tout de suite, on l'imagine bien construit dans le temps, mais en travaillant sur un nouveau modèle économique, sur une offre d'activités diversifiées, on a des chances de retrouver quand même une véritable dynamique.
Oui, j'ai oublié de répondre en même temps à Marc Lefebvre sur la partie chômage. Je sais que c'est son dada, les statistiques en matière de chômage, mais il ne faut pas confondre les données de l'INSEE de celles de Pôle emploi. Pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas pourquoi ça résonne d'un seul coup, pour la simple et bonne raison que l'INSEE intègre dans ses statistiques de demandeurs d'emploi toute une série de personnes qui sont des travailleurs saisonniers, parce que les critères de l'INSEE n'ont rien à voir avec ceux de Pôle emploi. Je peux vous donner les chiffres que communique régulièrement et qu'actualise Pôle emploi tous les trimestres, je crois. C'est le chiffre de 6,3% à la fin du deuxième trimestre 2018, soit le niveau qui était celui du chômage à Épernay en 2009. En 2014, il était de 7,7%. C'est effectivement la zone d'emploi d'Épernay qui est prise en considération parce que l'INSEE, enfin, parce que Pôle emploi considère que c'est la zone pertinente. Si on descend effectivement, si on descend quartier par quartier, on va avoir des contrastes saisissants. Si on descend maison par maison, si vous avez une maison dans laquelle les deux parents sont au chômage, on peut dire qu'il y a 100% de chômage dans cette maison. Ce n'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est les zones d'emploi définies par Pôle emploi et les chiffres qui ont été communiqués donc récemment concernant l'année 2018. Pointe ce chiffre à 6,3%. Côté INSEE, c'est 13,3% parce qu'il y a toute une catégorie, notamment la catégorie C, des personnes qui est comptabilisée comme étant partiellement à la recherche d'emploi, mais néanmoins travaillant, qui n'est pas pris en compte par Pôle emploi. Donc il faut faire très attention à cela parce que quand on regarde les chiffres qui sont régulièrement commentés par le préfet de région, vous verrez que sur ces chiffres, Épernay figure. Est un petit peu un cas isolé à l'ouest de la région, mais c'est le seul bassin d'emploi qui rivalise avec les bassins d'emploi d'Alsace sur des taux de chômage extrêmement faibles. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, la première préoccupation des chefs d'entreprise que je rencontre, et c'est, je crois pouvoir le dire, quasi unanime, et si demain on faisait un sondage au Vitivini, on serait surpris, la première demande des chefs d'entreprise, c'est de trouver des employés, parce qu'ils n'en ont pas aujourd'hui. Tout simplement parce que souvent, il y a un décalage entre le niveau de qualification des personnes qui cherchent du travail et l'attente des chefs d'entreprise. Mais je peux vous assurer que je discutais il n'y a pas très longtemps avec une industrie située pas très loin des terrains SNCF où ils cherchent entre 5 et 10 soudeurs. Mais qu'aujourd'hui, des soudeurs, il n'y en a pas sur le marché. Même dans les Ardennes, il n'y en a pas. Donc, si vous voulez, il y a une vraie difficulté, c'est l'inadéquation et l'employabilité d'un certain nombre de personnes qui, ou sont restées durablement éloignées du travail, ou ont des qualifications qui ne correspondent pas aux exigences d'aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai travail à faire là-dessus. C'est le travail de Pôle emploi, c'est le travail de l'État, notamment dans ses politiques de l'emploi et dans les politiques de développement de l'apprentissage, notamment. Mais on n'est pas trop mal loti si on se compare aux autres, ce qui ne veut pas dire que ça ne doit pas rester une préoccupation à l'échelle de notre Assemblée. Mais il faut arrêter de donner systématiquement des chiffres qui ne reprennent pas exactement la réalité. La réalité, c'est Pôle emploi qui la donne tous les trimestres, et ce n'est pas l'INSEE.
Sur l'emploi, donc, venez sur le Vitivini, et il y aura plus d'une cinquantaine d'offres qui vont être proposées, et on va recueillir encore d'autres offres sur la passerelle de l'emploi. Donc.
Monsieur Richard. Et puis, ah, pardon.
Deux choses. La première, en réponse à ce que vous venez de dire, ce n'est pas moi, c'est vos services qui ont écrit, page 34, qu'il y avait plus de chômeurs à Épernay qu'au niveau départemental. Au niveau départemental, le chiffre avoisine les 10%. Hein, et donc, il y en a plus. Bon. En ce qui concerne Jonathan, je voulais dire que c'est à la collectivité d'établir, d'informer la population sur la dangerosité des installations Seveso bas. Donc on doit informer. Je sais que la mairie, comme d'autres villes, ont un souci de ne pas affoler les populations.
Mais il n'y a aucun risque.
Je termine. La semaine dernière, il y avait bien un panneau rue de Verdun interdisant le transport des matières dangereuses.
Tout simplement parce qu'il y avait des travaux.
C'était seulement pour les travaux.
Mais bien entendu,
camion.
Il y avait une canalisation de gaz qui était changée à rue de Verdun, et en plus derrière il y a le pont SNCF qui est inutilisable par les camions parce que avec la giration qu'ils font, ils mordent sur la voie centrale qui fait l'objet de travaux, enfin de diagnostic actuellement par la SNCF, qui considère que la voie centrale a été fragilisée par le temps, par l'usage du temps, et on attend pour la fin du mois d'octobre un diagnostic complet sur ce pont. Mais, encore une fois, ce n'est pas lié à des matières dangereuses.
Mais pourquoi ne pas mettre un panneau interdiction aux camions de plus de 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes? Non, là, c'était le sigle en matière dangereuse. Voilà, c'est pourquoi je m'interroge.
Comment?
Le panneau matière dangereuse.
Non, il y avait simplement. C'est parce qu'il y avait une canalisation de gaz, et je pense que quand il y a une canalisation de gaz qui est changée, les matières dangereuses sont peut-être pas les bienvenues dans le secteur.
Donc c'était pas le tonnage du camion.
Il y avait une conduite de gaz qui était changée. J'ai d'ailleurs rouspété parce que nos propres services n'étaient pas au courant de ce changement de canalisation de gaz. Gaz de France ayant l'habitude de venir faire les travaux sans prévenir personne. Donc Je ne sais plus. Oui, monsieur Richard.
Ce panneau dont fait état Marc, il est déjà depuis quand même un nombre de semaines conséquent. Et en plus, il était encore ce matin. Le panneau, matière explosive dangereuse. Il y est au rond-point de Champagne.
Je sais plus comment. Oui, je l'ai vu, moi, en descendant chez De Castellane.
Voilà. Bien, mais c'était pas ça. Il y est toujours.
Donc, ça n'a pas de rapport avec De Castellane, évidemment.
C'est pas ça, pardon.
Ça n'a pas de rapport avec De Castellane, évidemment.
Non.
Je le dis pour notre collègue.
Non, ça peut péter, mais c'est beaucoup plus agréable. Ça, on est bien d'accord. En ce qui concerne ce qui a été dit et dans les réponses que vous avez formulées aux différentes interrogations ou remarques données par mes collègues, et notamment l'intervention de Jean-Paul Angers, évidemment que même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, je prendrai deux points. En ce qui concerne les logements, dans le document, il est indiqué 1500 logements, etc. Et si je mets en regard avec ce que nous a dit Madame Loyau avant son départ, c'est-à-dire à la fin mai de cette année, lorsqu'on lui avait posé la question déjà bien auparavant concernant le stock de demandes de logements sur Épernay, elle a répondu que sur Épernay élargi, c'est-à-dire en fait c'était, je pense, la communauté de communes, il y avait 640 demandes de logements. On en a 1500 de disponibles. Il y en a 500 à vocation majoritairement résidentielle, prévus sur Berge de Marne. Il y en a qui sont prévus encore l'esplanade du Jard, en bordure de l'esplanade du Jard. Et donc là, alors on va nous dire oui, comme pour l'emploi, c'est parce qu'il faut des soudeurs et on n'a que des manœuvres et que ça va pas. C'est-à-dire qu'on nous l'a déjà servi de nombreuses fois, c'est des logements qui sont pas adaptés à la demande. Certes pour une part. Maintenant, avez-vous le chiffre des logements vacants sur Bernon, malgré la réhabilitation pour paraphraser un éminent français, le poignon de dingue qui a été mis, 100 millions, dont à peu près 10 à 11% par la ville d'Épernay. A-t-on une indication sur le nombre de logements vides?
Il est aujourd'hui aux alentours de 80.
Autour de 80. Ouais. Donc, lorsqu'on voit...
Il était en tout cas, quand on a terminé les travaux, parce que ce n'est pas la donnée d'aujourd'hui, il a probablement varié de quelques logements.
Ça bouge.
Mais il était de mémoire aux alentours de 80. Non. Enfin, les chiffres que m'a donné un représentant du toit champenois au mois de mai ou juin, le jour où on a fait la fin des travaux du quartier de Bernon, ça tournait aux alentours de 79-80. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai conservé. Il est en baisse constante, puisqu'il a été supérieur à 400, hein, ce chiffre, avant les travaux. Donc
oui,
on n'est plus aujourd'hui qu'à
80. On en a démoli 530 des logements.
Oui.
Bon, non, mais il faut mettre les choses en regard. Et bien sûr, il y en avait sans doute, je ne connais pas le chiffre exact, mais il n'y a pas de raison que je ne crois pas ce que vous disiez là.
Sachez que le taux n'est jamais de zéro. Pour la simple et bonne raison qu'il y a constamment des entrées et sorties, constamment des travaux dans certains logements qui font qu'il y a toujours 30 à 35 logements qui sont en cours de rafraîchissement ou de travaux. Donc, si on considère qu'aujourd'hui, la rotation implique une vacance moyenne de 35 à 40, on n'est pas si loin que ça de l'objectif. On s'est en tout cas considérablement rapproché de l'objectif.
Oui, on ne l'est pas, mais là, c'est comme pour le nombre de chômeurs, etc. Vu la baisse de la population, en nombre, il y a moins de chômeurs à Épernay. Alors, là, ça, c'est le premier élément.
Sauf que pour
élément.
Les chômeurs, on parle en pourcentage.
Oui,
en
pourcentage.
Pour éviter.
Pourcentage, on a un petit peu moins.
Pour éviter.
Voilà. D'après les chiffres qui sont dans le cadre du document qui nous a été communiqué. Effectivement, document très intéressant, il y a... Pas de doute là-dessus, hein. Même si c'est un peu long à lire, on le fait plusieurs fois. Alors, ma remarque, c'était, on fait du logement, d'ailleurs il est signalé que c'est quand même avec une recherche d'optimisation fiscale que ces logements sont faits, c'est-à-dire en fait, on fait du logement et ça ne répond pas nécessairement de manière très, je dirais pas pertinente, parce que c'est pas fait en dépit du bon sens, mais ça ne correspond pas aux réels besoins concernant la localité et son environnement immédiat. Pour revenir sur les berges de Marne, vous disiez tout à l'heure, que, et c'est peut-être, si ça se confirme, c'est une bonne nouvelle, que la SNCF veuille conforter ses installations là, du technocentre. On sait où on subit, enfin, si, ça a été donné, là, concernant l'extension de possible, je dis bien possible, de Le Gras, c'est une bonne chose. Nous, on regrette quand même que dans le document et notamment dans ce qui concerne, je dirais, le cahier des charges concernant la mission de maîtrise d'œuvre sur Berge de Marne, il n'y a aucun moment où n'est évoqué le développement économique. Il y a différentes missions qui sont données dedans, 4 ou 5. D'ailleurs, j'ai fait la remarque, Claude était présent à la commission. Michel aussi, j'ai fait la remarque l'autre fois, et ça, c'est tout à fait dommageable. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de mettre une scierie, une fonderie sur le site, mais quand même, par exemple. Et en regardant ce qui se passe et ce qui est annoncé à Troyes. À Troyes, bon, c'est dans une zone, hein, c'est pas dans le centre-ville, mais à Troyes, donc, il va y avoir l'installation d'une entreprise de déroulé du bois. Ce qui montre d'ailleurs que la filière bois, ce n'est pas une lubie ou un yo-yo, un chèque qu'on agit très régulièrement. Et là, peut-être y a-t-il possibilité, et nous on le pense qu'il y a possibilité, de travailler de concert et de se rapprocher de l'école supérieure du bois à Épinal, notamment pour, pourquoi pas, créer une annexe avec des 20, 30, 40 techniciens. Parce que le bois aujourd'hui, bon, chacun lit les gazettes, enfin, je suppose, et même quelquefois dans la presse généraliste, on voit bien le développement dans la construction de l'habitat, y compris dans la construction d'habitats 10, 15, 20 étages. Alors certes, il y a des pays comme l'Allemagne, comme certains pays au nord de la France, qui sont plus avancés que nous dans ce domaine. Mais ça se développe. Et donc, là, il y a sans doute une opportunité. Et il ne s'agit pas de bloquer les 12 hectares pour ça. Mais on peut faire. Et ça, on regrette, justement, qu'il n'y ait pas cette volonté. Alors, dernier point, vous avez évoqué Cœur de Ville. Et l'argent que le gouvernement entend, avec des partenaires, la Caisse des dépôts essentiellement quand même, mettre pour revitaliser les cœurs de ville, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais, et en même temps qu'il lance, et j'espère qu'on ne sera pas déçus, hein, mais en même temps qu'il lance cette opération, il supprime 80 millions dans le budget des APL. Or, on sait que les APL peuvent faire l'objet dans le cadre des logements à réhabiliter, etc., en centre-ville. C'est-à-dire que d'un côté, on annonce, hop, le tambour, les trompettes, et puis de l'autre côté, on enlève les crédits. Il est à craindre, et j'espère que ça se vérifiera pas, il est à craindre, malgré tout, qu'on se fasse quelques illusions. Voilà. Merci. Bien.
D'autres interventions, M. Angers ?
Oui, simplement une. Pour peut-être compléter, suite à la remarque de Claude Maréchal, je crois que nous avons le devoir d'être optimistes. Quand on est élu, on a le devoir d'être optimiste. Si on est pessimiste et qu'on voit tout en noir, on n'a rien à faire, je dirais, dans un collectif qui essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Néanmoins, il faut quand même regarder les choses avec raison. Et aujourd'hui, il y a quand même une défaillance par l'individualisme de notre société, d'une manière générale, par, je dirais, les erreurs de notre génération, de nos générations en particulier, qui nous amènent quand même à des perspectives qui sont assez peu glorieuses. Après, moi, je comprends bien que la collectivité, d'une manière générale, elle peut pas tout. Mais je pense que la collectivité, son rôle, c'est quand même d'encadrer les individus, d'encadrer les citoyens pour essayer de les tirer vers le haut. Et moi, c'est aussi ça que je demande en ayant une dimension perspective dans cette vision-là. Et cette vision perspective, on peut l'avoir qu'à partir d'un moment où on vient sublimer. Sublimer, c'est passer de l'état solide à l'état gazeux d'un seul coup, hein, au sens physique du terme. Donc, il y a un moment, il faut sublimer quand même ce que l'on est capable de faire. Donc, ma remarque, elle était dans ce sens-là.
Oui, je vous rejoins, mais encore une fois, il ne faut pas vouloir faire jouer au plus le rôle qui n'est pas le sien. Et autant je vous retrouve sur les thématiques que vous avez évoquées tout à l'heure, autant je persiste à dire que tout ne devait pas figurer dans le PLU. Certaines choses sont dans le PLU, elles y sont, mais d'autres outils sont mis en place. Le projet Cœur de Ville est un autre outil qui va traiter de l'habitat notamment. La résorption de l'habitat vacant en centre-ville, ce n'est pas du ressort du PLU, puisque ce patrimoine bâti, il existe déjà. Donc il n'a pas à retoucher, il est simplement à rénover. Et ce sera évidemment l'affaire des politiques que nous devrons mener, notamment dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, pour faire en sorte de remettre sur le marché un certain nombre de ces logements. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Je vous propose donc de mettre aux voix ce rapport. Avis contraire. Donc, 3, il y a Mme Perrin ou pas? Non, elle n'a pas donné Perrin. Bon, d'accord. 2. Parce que je voyais 2 doigts levés, donc je me suis dit, il vote 2. Donc, 2 votes contre, abstention, 1, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2.2. Je passe la parole à Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, par une délibération du 21 septembre dernier, vous avez retiré la délibération portant cession d'une emprise de la parcelle cadastrée, section AB numéro 15, afin de sécuriser la procédure de déclassement du domaine public. Aussi, il vous est proposé de constater la désaffectation de la parcelle cadastrée section AB numéro 65 et de la déclasser préalablement à la vente.
Merci. C'est la parcelle dont on a parlé la dernière fois. C'est pour éviter le recours, en tout cas neutraliser ce recours qui est un recours strictement dilatoire, afin de sécuriser cette cession. On désaffecte donc et on déclasse partiellement du domaine public la parcelle AB 65. C'est, on en a discuté, je crois, lors des 2 derniers conseils, si je ne m'abuse. C'est donc la suite logique des choses. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste un rapport concernant Jonathan Rodriguez et la convention de partenariat pour la mise à disposition de données d'éclairage public au bureau d'études Dark Sky.
Oui, merci. C'est une simple convention de partenariat entre la ville, le parc naturel de la montagne de Reims et cette société Dark Sky qui a été choisie par le parc pour compiler des données en matière d'éclairage public, parce que dans le cadre de sa charte 2020, le PNR souhaite parler, en tout cas s'appuyer sur la pollution lumineuse, en tout cas s'appuyer sur la lutte contre la pollution lumineuse pour préserver la biodiversité, notamment nocturne. Donc la ville d'Épernay, qui a rénové son parc assez largement, on n'est pas membre du parc, hein, on n'est pas dans le périmètre d'études, mais comme on est ville-porte, on peut alimenter ce diagnostic, parce qu'on est quand même très proche de cette montagne de Reims.
Merci. Je crois qu'il avait été posé une question par Mme Demange en commission sur le pourquoi de cette société dont le siège est à Toulouse. C'est simplement parce que c'est elle qui a remporté l'appel d'offres, une société qui travaille beaucoup avec le parc naturel, avec la Fédération des parcs naturels régionaux. Et pour cet appel d'offres, 3 cabinets avaient répondu, 1 du Grand Est, 2 venant d'Occitanie.
Non, on avait consulté. Non, ces 3 ont été consultés. 1 du Grand Est et 2 d'Occitanie, il y a seulement celui-là qui a répondu. Ouais. Ouais. Celui du Grand Est n'a pas répondu à l'offre. Donc, bon.
Voilà, nous en avons terminé avec notre ordre du jour. Merci de votre présence. La date du prochain conseil, on ne l'a pas encore ?
Non,
on ne l'a pas voté, pardon. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. La date du prochain conseil, on l'a ?
Le 19 novembre.
Donc dans cette salle, pour un conseil qui sera sans doute plus important en nombre de rapports, ce qui ne veut pas dire que celui-ci n'était pas important, puisque nous avons arrêté le plus. Bonne soirée à tous.